Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Bon, c'est vrai que c'était mal de connaître que d'imaginer Henri Rochefort croupir à 16 700 km de Paris, replonger avec moi dans cette évasion spectaculaire, ou plutôt grimper dans une barque de fortune avec Henri Rochefort et ses cinq compagnons en pleine nuit, au large des côtes de la presqu'île de Ducos. Imaginez l'embarcation de fortune qui lutte péniblement pour ne pas chavirer face aux vagues menaçantes, noires et vertes. Un orage est sur le point d'éclater au-dessus des fugitifs. Ces hommes jouent leur va-tout. S'ils ne parviennent pas à rejoindre le navire anglais censé les accueillir à bord et visible au loin dans la brume, ils risquent la mort, par noyade ou par exécution. Cette barque arrivera-t-elle à bon port ? Dans le célèbre tableau d'Édouard Manet et visible au musée d'Orsay, le peintre a imaginé la scène que je viens de vous décrire, vécue 7 ans auparavant par Henri Rochefort et ses camarades au moment de leur tentative de fuite du bagne de Nouvelle-Calédonie. Une évasion unique en son genre, à l'image du chef de file Henri Rochefort, un personnage emblématique de cette deuxième moitié du 19e siècle en France, un journaliste qui dérange. Victor Henri de Rochefort-Lucet naît en 1813 dans une famille de marquis ruinés par la Révolution. Titulaire d'un baccalauréat, le jeune homme se cherche pendant quelques années. Son père le rêve médecin. Pourtant, Henri préfère écourter ses études car il ne supporte pas la vue du sang. Il s'essaie à la poésie, devient un intime de Victor Hugo, écrit des pièces de théâtre et finalement obtient un poste d'inspecteur aux Beaux-Arts à la mairie de Paris. Un travail qui lui laisse du temps libre pour laisser s'exprimer son talent dans différents journaux, à commencer par Le Figaro. Henri Rochefort est alors considéré comme la plume la plus chère de Paris. Mais trop virulent envers Napoléon III, Le Figaro n'a d'autre choix que de s'en séparer. Qu'à cela ne tienne, Rochefort décide de créer son propre journal, La Lanterne, est une brochure hebdomadaire de 64 pages. Tiré initialement à 15 000 exemplaires, le journal est victime de son succès. L'imprimeur doit en éditer au total 100 000 copies qui se vendent comme des petits pains chauds. Henri y publie une critique qui restera dans les annales du pays. La France contient 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Avec ses cheveux noirs relevés en toupet, sa barbe en pointe et son teint pâle, il est désormais incontournable dans le paysage journalistique. Pendant une dizaine d'années de la France ou exilé en Belgique chez son ami Victor Hugo, il secoue la politique française. Il se positionne systématiquement en fervent opposant du Second Empire. Il s'engage comme député à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Il fait des séjours en prison, crée différents journaux comme La Marseillaise ou Le Mot d'Ordre dans lequel il critique ouvertement Adolphe Thiers, le premier président de la Troisième République, petit foutriquet, sanglant homme pouce ou vieux serpent à lunettes, voici des surnoms dont il l'affuble. Quand la Commune de Paris, qu'il avait un temps soutenu et balayé, son journal est interdit de publication et Henri Rochefort est capturé. À l'issue de son procès, Henri échappe de peu à la décapitation, mais le verdict signe son arrêt de mort politique et militant. Il doit être déporté en enceinte fortifiée, en Nouvelle-Calédonie. En 1872, il embarque sur le bateau La Virginie pour ce qui doit être son dernier voyage. À bord, il échange avec une autre militante anarchiste, une certaine Louise Michel, et ils ont le temps d'échanger. La traversée dure 4 longs mois. À 53 ans, Henri Rochefort ne s'imagine pas une seule seconde finir sa vie dans ce bagne, au milieu de l'océan Pacifique. Même si ses conditions de détention sont relativement souples, il n'a qu'une seule idée en tête, revenir à Paris. Un matin, il se serait levé et aurait dit à ses compagnons « Maintenant, je voudrais savoir par quelle porte on sort d'ici ». Le problème, c'est que personne n'a jamais réussi à s'évader. C'est vrai que les gardes des Canaques, les habitants de l'île, ouvrent l'œil et ont à cœur de montrer que s'enfuir est impossible. Mais Henri Rochefort est malin. Il a repéré un endroit qui pourrait s'avérer déterminant dans l'évasion qu'il projette de mettre sur pied. Un rocher à l'abri des regards. J'en revenais toujours plus convaincu que c'était sur ce bloc de granit que nous devions attendre une barque de sauvetage laquelle nous conduirait à un navire en partance dans la rade. Il doit à présent trouver des alliés. Rien de plus facile. Ses amis de longue date, francs-maçons comme lui, sont aussi ici. Certains sont même des déportés simples et ils ont donc le droit de chercher du travail. C'est ainsi qu'un ami se porte candidat pour venir les chercher sur le rocher en pleine nuit avec la barque de son patron. Il ne reste alors plus qu'à amadouer un commandant de bord prêt à les dissimuler sur son navire. Le capitaine Lowe, qui est à la tête d'un trois-mâts anglais, accepte. Selon les mémoires de Rochefort, le capitaine n'aurait pas hésité une seule seconde face au prisonnier venu demander main forte. Il l'avait trouvé dans sa cabine lisant un magazine ouvert précisément à une page contenant ma biographie en tête de laquelle s'épanouissait mon portrait. L'affaire est entendue. Pour 10 000 francs, les 6 candidats à l'évasion doivent se tenir prêts à partir le 19 mars 1874 au soir. Ce jour-là, la météo est peu clémente, un orage menace. Rejoindre le rocher à la nage s'avère dangereux, mais ils n'ont pas d'autre choix. Henri Rochefort manque plusieurs fois de sombrer, d'autant que, selon ses écrits, des requins rôdent aux alentours. Une fois tous à bord de la barque, les 6 fugitifs gagnent le port de Nouméa et grimpent dans la cale du bateau anglais. Mais le lendemain matin, alors que l'ancre est levée depuis 7 heures, le navire reste immobile. Le capitaine leur fait passer un mot par une trappe, leur expliquant que faute de vent, ils ne pourront partir que demain. Mais demain, ce sera trop tard. Les gardes découvriront leur fuite et feront tout pour les retrouver. Henri s'imagine déjà mort. Pourtant, à 11 heures, le bateau s'engage enfin dans la rade. Les fugitifs sont sur le qui-vive. Le navire doit absolument s'éloigner des côtes et voguer dans les eaux internationales. Les gardes français n'auront plus aucun droit sur le bateau. C'est chose faite à 16 heures. Les prisonniers sont sauvés. Henri Rochefort rentre en France seulement 6 ans plus tard, en 1880, grâce à la loi d'amnistie. Il lance avec succès le journal politique qui sera le plus lu. Son nom, l'intransigeant. Oh, forcément.
Europe 1, historiquement vôtre.